Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal. D'abord les titres. Gare aux agents véreux de la police de circulation routière. Ils sont dans le viseur de l'inspection générale de la police depuis lundi. Pendant 15 jours, ils sont traqués par ces inspecteurs parmi les communes ciblées Gombe, Lingwala, Mongafula. Et puis, 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la ZELECAF, la RDC réitère sa demande d'établir à Kinshasa le siège du système de paiement et règlement panafricain, une des recommandations du ministre congolais du commerce extérieur à l'issue de ce grand rendez-vous tenu hier, mardi, à Kinshasa. L'invité de ce journal, c'est Séraphin Oumba, au cadre de l'UDPS Kibasa. Avec lui, nous parlons des initiatives de paix qui se sont multipliées tant sur le plan national qu'international pour mettre fin à l'insécurité qui secoue l'Est de la RDC depuis 3 décennies, à suivre dans ce journal. Bonjour, mais d'abord ce drame, encore un drame sur le fleuve Congo et la série continue. Une baleinière a pris feu hier mardi sur ce fleuve à Mbandaka, au niveau du lieu appelé Nganda Kinshasa. Le bilan est très lourd quand on parle de plusieurs morts et des disparus. Selon des sources locales, les chiffres et l'origine de l'incendie ne sont pas encore déterminés, vous avez compris. L'embarcation dénommée HB Kokolo quittait le port Bolingué à destination du village Mbondo. L'information est confirmée à Radio Kapi par le sénateur Jean-Paul Boketu Bofili, élu de l'Équateur, qui ne précise pas non plus le bilan. Junior Bompongo, un acteur politique local, déplore cette énième tragédie survenue dans cette région et en appelle à la responsabilité des autorités. Il est joint depuis Mbandaka par Grace Amzati.
Ce drame survient à peine quelques jours après un autre naufrage. Des drames, une même région et toujours les mêmes questions. Pourquoi cela continue-t-il à se produire et surtout jusqu'à quand? Nous parlons ici des vies humaines, des familles entières décimées, des corps engloutis par les eaux pendant que les autorités, elles, enchaînent les silences ou les promesses non tenues. Ce n'est plus une série d'accidents, c'est un système d'irresponsabilité généralisée. Des embarcations surchargées, sans gilet de sauvetage, sans contrôle, sans secours adaptés. Et pourtant, ces embarcations continuent de circuler en toute impunité aux vies et aussi de tous. L'exécutif provincial, les services de transport fluvial, les autorités nationales, tous sont interpellés. À ce stade, ce n'est plus de la négligence, c'est une complicité par abandon. On ne peut plus se contenter des messages de condoléances. Ce qu'il faut, c'est une réponse forte, immédiate, structurée. Un plan d'urgence pour sécuriser les transports fluviaux s'impose. Le fleuve ne doit pas être à ce jour un cimetière. Il doit redevenir un trait d'union entre les Congolais.
Jusque-là, tous nos efforts pour avoir le son de cloche des autorités locales, dont le gouverneur de l'Équateur à ce sujet, sont restés vains. Et puis cet avertissement aux agents véreux de la police de circulation routière, spécialement les auteurs de tracasseries, des équipes d'inspecteurs de l'IG sont depuis lundi sur terrain pour 15 jours afin de traquer tous les agents de la PCR qui s'adonnent à des comportements violents. Les droits des usagers de la route, des jeeps avec mention IGPNC sont déployés à cet effet dans les communes de la Gombe, Lingwala, Mongafula, Limete et Njili. Reportage signé Billy Ivan Lutumba.
Ce mardi 14 avril, les inspecteurs de l'IGPNC ont sillonné plusieurs carrefours de la ville de Kinshasa pour contrôler et évaluer les comportements des agents de la PCR. Sur avenue de la Gombe, après avoir fait libérer un conducteur interpellé sans raison valable, un passant témoigne.
Tout ce qu'il raconte, c'est du mensonge. À cet endroit, il y a une fracasserie sans précédent. Si vous venez régulièrement, vous le prendrez en infraction. C'est pire à cet endroit. Je me réjouis de l'initiative. Si vous le faites régulièrement, cela va beaucoup aider et préserver l'honneur de la police.
Ailleurs, au niveau du saut de mouton à Sanef, sur avenue des Libérations, ce 24 novembre, un membre de la Chaco encourage l'inspecteur général Patience Mouchid pour cette initiative.
Nous demandons à l'inspecteur général que la présence des inspecteurs de l'inspection générale soit sur terrain pour éviter un peu de dérapage de nos policiers. Et j'arrive à sensibiliser tous les chauffeurs de respecter le code de la route, de ne pas désobéir aux agents qualifiés. La présence de l'inspection sur terrain, ça va éviter beaucoup de dégâts et il y aura moins de bavures policières.
Dans cette même mission, une autre équipe est tombée sur un groupe de policiers policiers de l'unité de surveillance à bord d'une voiture quête de la PNC qui a tamponné mortellement une vendeuse aux abords du boulevard du 30 juin. Les usagers de la route sont donc encouragés à saisir l'IGPNC sur avenue Justice numéro 40 ou à l'antenne de l'IG ville de Kinshasa au camp Kabila, des tout cas violant leurs droits légaux.
Économie, la RDC réitère sa demande adressée au secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELECAF, de pouvoir établir à Kinshasa le siège du système de paiement et règlement panafricain. C'est l'une des recommandations formulées par le ministre congolais du commerce extérieur à l'issue de la 16e réunion du Conseil des ministres de la ZELECAF tenue hier mardi à Kinshasa. Au cours d'une conférence de presse organisée dans la soirée à cet effet, Julien Paluku affirme que la RDC fournit d'énormes efforts pour relever les défis liés notamment aux infrastructures et explique des voies qui ouvrent le pays au marché international. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Il y a le corridor, par exemple, qui va du Sud-Ubangi en passant par Zongo jusqu'en République centrafricaine et qui ouvre les marchés sur l'Afrique occidentale. Il y a le corridor qui partirait de Kisangani, vous allez jusqu'à Kasese en Ouganda et vous débouchez sur Mombasa, nous sommes à l'océan Atlantique. Il y a le port en eau profonde de Banana, dont le lancement a été fait par le président de la République. Il y a le corridor de Lobito et il y a au-delà de cela des corridors internes. Maintenant, pour que nous puissions nous rassurer du niveau du commerce que nous allons mener, nous, la RDC, nous avons déjà déposé au niveau du secrétariat général la liste de tous les produits qui doivent faire l'objet du commerce intra-africain. Nous avons déjà listé 6439 produits. Et dans ces 6439 produits, l'accord de l'ECAF dit que chaque pays doit choisir 3% de sa liste pour que ces 3%-là ne fassent pas l'objet de démantèlement tarifaire. Et nous les avons déjà choisis. Mais en dehors de ces 3% qui se chiffrent à 209 produits congolais, tout le reste va faire l'objet effectivement du commerce interafricain.
Cette interrogation à présent, comment améliorer la gouvernance minière en République démocratique du Congo? Cette question est au centre d'un atelier de réflexion qui se tient du 15 au 17 avril à Kinshasa entre acteurs étatiques et non étatiques. Ce forum de 3 jours vise à peaufiner des stratégies devant renforcer la lutte contre les minerais du sang. La première ministre Judith Suminwa, pour sa part, insiste sur le mariage entre la société civile et l'État pour réussir ce pari. Des explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Venu de plusieurs provinces du pays, les participants à ces dialogues analysent les impacts de l'exploitation minière illégale dans les contextes des conflits en RDC et dans la région des Grands Lacs. À travers les échanges et débats, ils se proposent de favoriser une exploitation minière légale, durable et responsable en vue de contribuer à la stabilité et au développement en RDC. Le coordonnateur national du comité des crises pour la paix et la sécurité en RDC regrette que les richesses minières attirent plus de problèmes que des solutions aux Congolais. Patient Bachombe.
Les minerais qui devraient financer notre développement servent de carburant au réseau des violences. Les richesses naturelles censées être des instruments de prospérité partagée sont devenues des moteurs d'un chaos.
Pour relever ces défis, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, assure avoir déjà lancé un vaste chantier de réformes pour assainir les secteurs miniers du pays.
Des avancées notables ont été réalisées en matière de transparence, de traçabilité, de gouvernance et de responsabilisation des acteurs.
Pour sa part, la première ministre indique par ailleurs avoir fait de la gouvernance minière un objet de débat citoyen. La tenue de ce forum de 3 jours bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération allemande, de l'ambassade des Pays-Bas et de plusieurs autres organisations non gouvernementales.
Place à présent à cette tribune de vendredi de l'ancien président du Parlement de transition intitulé « République fédérale du Congo, une urgence nationale ». À ce sujet, Olivier Kamitatou, car c'est de lui qu'il s'agit, appelle à un dialogue national inclusif pour adopter une nouvelle constitution fédérale, jeter les bases d'un État moderne, efficace et plus juste. En tout cas, il soutient que le fédéralisme est une voie réaliste et nécessaire pour bâtir un Congo uni, prospère et en paix, où chaque région joue un rôle actif dans le destin commun. Fort de son expérience et de 20 ans de recul, Olivier Kamitatou dit constater que la concentration excessive de la gouvernance freine le développement du pays malgré ses immenses richesses naturelles et culturelles. Michel Kifindangoy.
D'après Olivier Kamitatou, la décentralisation promise par la Constitution de 2006 est restée inopérante, les provinces dépendent toujours de Kinshasa pour leurs ressources et décisions. Face à l'échec du modèle unitaire, le président honoraire de l'Assemblée nationale des transitions propose une fédéralisation articulée autour des 6 grandes régions historiques, Oriental, Équateur, Congo, Kasaï, Katanga et Kivu. Pour le porte-parole de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ce système offrirait une autonomie constitutionnelle à chaque région avec ses propres institutions, ressources et compétences, notamment en matière d'éducation, santé, infrastructure et développement. Il permettrait, souligne Olivier Kamitatou, une gouvernance de proximité adaptée aux réalités locales, valorisant la diversité linguistique et culturelle du pays.
En réaction, la Mouka de Martin Fayoulou s'oppose catégoriquement à une telle idée car selon cette coalition politique, le basculement au fédéralisme implique le déchirement de la Constitution. Pour son porte-parole, Prince Epengé, l'échec de la gouvernance de la RDC n'est pas dû à la forme unitaire de l'État mais plutôt à l'irresponsabilité de la classe politique. Pour lui, le fédéralisme est un vocable qui voit l'intention de la balkanisation de la RDC. Prince Epengé.
Proposer de déchirer la Constitution aux fins de muter la RDC à un État fédéral est une insulte à la lutte de Lumumba. Le terme fédéralisme tel qu'évoqué est un qualificatif sexy pour atténuer le choc du mot balkanisation. Si la RDC est dans le chaos, dans la pauvreté et dans la désorganisation actuelle, c'est à cause de l'irresponsabilité, de l'inconscience et du clientélisme de ses dirigeants d'hier et d'aujourd'hui.
Pour sa part, Hervé Diakessé, d'Ensemble pour la République, salue l'appel au fédéralisme lancé par Olivier Kamitatou. Le porte-parole d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi estime que le fédéralisme va renforcer la gouvernance du pays à partir de la base afin de booster le développement. Pour lui, cette initiative n'exige aucunement le changement de la Constitution comme le prétendent certains. Hervé Diakessé.
L'unitarisme a sérieusement failli à consolider l'unité nationale, à garantir la sécurité de notre territoire et surtout à promouvoir la bonne gouvernance et le développement à la base. La période est propice parce que c'est pendant le moment des crises, c'est pendant les moments des défis que les esprits éveillés réfléchissent et cherchent des pistes de solutions. Passer de l'unitarisme actuel au fédéralisme n'implique pas un changement de constitution parce que le fédéralisme respecte la forme républicaine et davantage accroît les prérogatives des entités territoriales décentralisées. Nous sommes bel et bien dans l'esprit de l'article 220 de la Constitution.
De son côté, le professeur Ngoma Binda, spécialiste en philosophie, auteur de plusieurs ouvrages sur le système politique et la gouvernance, soutient le fédéralisme comme la forme de l'État la mieux adaptée pour la RDC. Cependant, il estime que ce débat n'est pas opportun en cette période où une partie du pays est sous occupation par les M23. Professeur Ngoma Binda.
Déjà en 1964, la constitution de Luluabourg, conférence nationale souveraine, préconisait le fédéralisme. Donc l'option fédérale est une option rationnelle et intelligente pour le pays qui est de dimension extrêmement vaste. Cependant, pendant que le MV3 occupe la partie est du pays, nous pensons que ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça peut donner lieu à une déviation de vœux de sécession. Et là, ce serait alors bien malheureux pour notre pays.
Ce dossier porte la signature de Michel Kifindangoy. Parlons de ce constat amer de Hotcha au Nord Kivu. La coordination humanitaire note de nouveaux déplacements des populations dans les territoires de Walikale et de Lubero pendant le mois de mars 2025. Cependant, dans la même région, environ 286 000 personnes ont bénéficié d'une assistance. C'est ce qu'on peut lire dans son rapport mensuel du 16 au 31 mars 2025, rendu public hier 15 avril. Ce rapport revient sur des incidents rapportés pendant cette période causant des dégâts humains et matériels. Sifa Maguru nous en donne les détails.
La situation est restée tendue en territoire de Walikale. Ocha affirme que plus de 70% de la population avait fui vers les forêts, tandis que d'autres ont pris la direction de Lubutu jusqu'au Maniema. Ce rapport de Ocha indique en outre que des bombardements enregistrés le 22 mars ont fait au moins 3 civils tués et d'autres blessés. Des installations publiques ont également été endommagées, notamment l'aérodrome de Kigoma et les ponts sur la rivière Loa. La persistance des affrontements rend ainsi difficile l'approvisionnement en intrants et en matériel médicaux, mettant en difficulté les acteurs de santé. Toutefois, les activités reprennent timidement depuis début avril à Walikale Centre notamment. Par ailleurs, en territoire de Massissi, Ocha parle d'incursions fréquentes et affrontements ont occasionné la fuite d'au moins 900 personnes vers la localité de Nyangé. Au moins 10 personnes ont été enlevées entre le 25 et le 26 mars par des hommes armés dans les villages Malemo, Kaira et Kamoni, rapporte ces rapports de mars 2025.
Et puis ce drame familial incroyable ici à Kinshasa, un soldat des FARDC a tué sa compagne, ses sept enfants et un autre homme hier mardi vers 4 heures du matin au camp Kokolo, ici dans la capitale. Il a par la suite mis le feu à la maison et s'y est donné la mort. Pour l'instant, les motivations de ce drame demeurent inconnues.
Actualité internationale.
2 ans après le début de la guerre entre l'armée soudanaise et la milice paramilitaire des forces de soutien rapide, le Soudan et ses 48 millions d'habitants sont plongés dans une crise humanitaire sans précédent. Alors que des dizaines de milliers de personnes sont mortes, près de 13 millions ont été déplacés et 25 millions se trouvent au bord de la famine selon l'ONU.
L'invité
de ce journal, c'est Séraphin Oumba. Il est au cadre de l'UDPS Kibasa. Avec lui, nous parlons des initiatives de paix qui se sont multipliées tant sur le plan national qu'international pour mettre fin à l'insécurité qui secoue l'est de la RDC depuis 3 décennies, ainsi que la décision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'initier les consultations politiques visant la formation d'un gouvernement d'union nationale. Séraphin Oumba répond à bâton rompu aux questions de Blaise Shindani Kambala.
Bonjour, monsieur Séraphin Oumba.
Bonjour.
La RDC connaît une turbulence dans sa partie est. Les populations qui vivent dans cette partie du pays vivent constamment dans l'insécurité. La plupart d'initiatives mises en place pour l'instauration de la paix n'ont toujours pas donné les résultats escomptés. Que faire pour que la quête de la paix ne soit pas un vœu pieux?
Je crois qu'il faut y aller cette fois-ci pour de bonnes. Généralement, les initiatives prises avant ne touchaient pas au fait de la vraie question. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir que le Rwanda a ses visées qui sont pas les visées des politiciens congolais. Les politiciens congolais veulent remplacer, mais autre temps les là que je vais mettre, mais le Rwanda veut en fait dominer le Congo. Lorsqu'on arrive à faire la part des choses, retirer le Rwanda de la gestion congolaise, cette fois-là, si on sait que c'est effectivement ça le grand problème, je crois que nous irons de l'avant et nous trouverons des solutions qui seront différentes des premières solutions, uniquement brassage, mixage, qui au fait en réalité ne faisait que faire monter en puissance l'hégémonie rwandaise sur la région congolaise.
Et d'aucuns accusent les politiques d'être à la base de tous les soubresauts, car les frustrations sont nombreuses dans la classe politique. Qu'est-ce qui doit être fait pour fédérer les efforts et amener tout le monde à regarder dans la même direction afin que la paix soit une réalité dans notre pays, notamment dans la partie est?
Donc ça, c'est la conséquence de la gouvernance et autre chose. On pourra en parler effectivement qu'après avoir vidé d'abord cette question. Mettons-nous dans l'hypothèse où on termine la guerre et que la paix revient à la partie est. Mais cette fois-là, il faudra s'occuper de Kinshasa et des institutions en place qui doivent être mises en place dans une objectivité et transparence. Parce que ça aussi, c'est ça le problème des Congolais. Donc, donner l'impression qu'on gouverne sans les autres, donner l'impression que les institutions, je parle de l'institution CENI, qui fait des choses selon le vouloir de son président. D'ailleurs, le cas de Nanga est éloquent, qui vous dit qu'il a eu un certain moment à décider qui est président, qui ne devait pas l'être. De la même manière, ils ont eu à décider qui peut être député, qui ne pouvait pas l'être. Donc, ce genre de choses, au fait, pourront faire en sorte que, lorsque les Congolais se regardent en face, qu'ils disent, soyons sérieux, faisons les choses selon les règles de l'art, on pourra ne plus donner flanc au Rwanda qui utilise les frustrations congolaises pour venir faire ses aventures. Parce que ce sont les frustrations congolaises qui justifient le comportement du Rwanda qui, tout en ayant d'autres objectifs, brandit les contradictions congolaises comme étant les vraies raisons de sa présence au Congo. En fait, il faudra regarder par la suite à la fin de la guerre, qui est en fait une guerre qui n'est plus comme elle a été avant, parce qu'avant, les Congolais pensaient qu'il y avait une libération, mais aujourd'hui, les Congolais savent qu'il n'y a pas question de libération, c'est question de domination et de l'esclavage, ou soit de la colonisation.
Justement, les initiatives de paix fusent de plusieurs structures et personnalités. Cependant, certains politiques, notamment ceux de votre plateforme Union Sacrée, sont contre certaines démarches. N'est-ce pas là vouloir une chose et son contraire?
Non, vous n'avez peut-être pas vidé la question, mais je sous-entends la question. Vous voulez parler de la démarche de la CENCO.
Voilà.
Cette démarche de la CENCO, tout Congolais épris de l'esprit de l'objectivité n'applaudirait pas cette démarche. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, la question de l'Est, c'est une question existentielle pour les Congos. Ne pas savoir que nous sommes agressés par les Rwandais et se comporter comme si c'était une question interne, déjà, ça fausse les démarches. Donc, je vais dire par là, si ces prêts-là, les nôtres, pouvait avoir le discours du Congo, du gouvernement congolais, qui sait que nous sommes agressés par les Rwandais, avec ce discours, affronter les dirigeants du Rwanda et de l'Ouganda, on les acclamerait. Mais lorsque vous allez au Rwanda, en adoptant le discours du Rwanda, que c'est un problème interne, là, on a difficile à vous suivre. C'est pourquoi nous avons imagé sur la question, est-ce que les prélats, ils peuvent aujourd'hui endosser le discours de Mgr Ekofo de l'ECC? Est-ce qu'ils peuvent avoir ce discours-là? Avoir Ekofo dans leur délégation et circuler avec Ekofo et son discours, parler à Kagame et parler à l'Ouganda. Mais lorsque vous allez en face de Kagame, parler de la gouvernance de Tshisekedi, là vous posez problème. Ici, il ne s'agit pas de problème de Tshisekedi. Tshisekedi peut partir. D'ailleurs, Mouzé était là, les Rwandais se comportaient de la même manière. Joseph est arrivé, les Rwandais se comportaient de la même manière, mais en toute aisance, parce que Kabila avait accepté de jouer les jeux. Aujourd'hui, ce que de là, les Rwandais se comportent de la même manière. Nous ne pouvons pas penser que ce sont les problèmes internes ici qui font que nous sommes en insécurité. Le problème, c'est les Rwandais. Il faut l'épingler. Est-ce que les prélats ont épinglé la réalité de la démarche rwandaise qui est uniquement celle d'épiller nos richesses?
Séraphin Oumba, Radio Capi vous dit merci.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Pele Kipela Mondo et à Mimi Kindou. Bonne journée à vous qui êtes à Kinshasa et partout dans le monde.